Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le pape François prie pour les victimes québécoises du lac Mégantic. François a envoyé un télégramme de condoléances adressé à la population de la ville. 13 personnes sont mortes, 50 sont portées disparues après le déraillement et l'explosion d'un train. L'indulgence plénière sera accordée aux fidèles qui participeront avec dévotion aux rites sacrés et exercices pieux qui se dérouleront pendant les JMJ de Rio de Janeiro. C'est ce qu'annonce un décret publié ce mardi. Plus de 5500 journalistes sont accrédités pour l'événement. En Haïti, une religieuse française œuvre aux côtés de franciscaines brésiliennes. Elles tentent ensemble d'apporter des aliments aux enfants sous-alimentés, mais aussi un soutien moral, une éducation sanitaire à leur maman. Et puis enfin, dans cette émission, nous reviendrons sur les 2 ans de vie de l'État du Soudan du Sud. 2 ans après son indépendance, les défis du plus jeune État au monde restent encore très nombreux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission en langue française de Radio Vatican. L'enquête n'a toujours pas abouti après l'explosion d'un train au Canada ce samedi. Alors qu'il se dirigeait vers une raffinerie à l'est du pays, un convoi de 72 wagons-citernes a déraillé et explosé en plein cœur de la ville du lac de Mégantic au Québec. Personne ne se trouvait à bord, c'était un train fantôme, mais l'explosion fut si forte que 13 personnes qui se trouvaient non loin de là ont officiellement péri, 50 autres Canadiens sont portés disparus, des victimes, mais aussi des blessés qui sont aujourd'hui dans les pensées du pape Manuela Afidji.
Le télégramme a été envoyé à la conférence des évêques catholiques du Canada. Comme c'est de coutume, le cardinal Tarcisio Bertone en est le signataire. Le secrétaire d'État du Saint-Siège rapporte que le pape, apprenant le déraillement tragique et meurtrier du train, a tenu à s'associer par la prière à la peine des familles endeuillées. François confie les victimes à la miséricorde de Dieu, le priant de les accueillir dans sa lumière. Dans ce message adressé à la population du lac Mégantic, le pape exprime également sa profonde sympathie aux personnes blessées, à leurs familles, aux secouristes et à toutes les personnes qui les entourent, priant le Seigneur de leur apporter aide et consolation dans leur épreuve. En gage de réconfort, il adresse enfin une particulière bénédiction apostolique à toutes les personnes touchées par ce drame.
Et après le drame humain, une catastrophe écologique menace désormais la région. Le train a en effet terminé sa course à quelques mètres seulement d'un lac alimentant la rivière Chaudière, un affluent du Saint-Laurent. Quelques 100 000 litres de pétrole provenant des wagons-citernes pourraient maintenant atteindre le fleuve qui relie les grands lacs à l'océan Atlantique. Au Liban, l'attaque n'a pas été meurtrière, elle n'en est pas moins extrêmement préoccupante. Pour l'Église, plus de 50 personnes ont été blessées, dont une sérieusement touchée ce mardi à Beyrouth. Un attentat à la voiture piégée a frappé la banlieue sud de la capitale libanaise. L'attaque a eu lieu dans une zone commerçante, un fief du Hezbollah. Il s'agit de l'attaque la plus importante contre le mouvement chiite depuis son implication dans le conflit syrien, aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad. Un attentat qui risque de diviser un peu plus la population libanaise. Le Liban tente de rester neutre face au conflit en Syrie, mais ces tensions confessionnelles menacent la stabilité du pays. Dans ce contexte, le prêtre de la paroisse de Saint-Élie à Zalée au Liban, Édouard Baer, devient dès ce mardi l'archevêque des Grecs melkites à Tripoli au Liban. Il est interrogé par Audrey Radondi.
Je serai l'évêque de la diversité culturelle et religieuse, la diversité sur le plan œcuménique et sur le plan interreligieux, notamment sur le plan du dialogue islamo-chrétien. Ma mission et mon témoignage seront inspirés tout au long de mon service épiscopal de la fameuse expression prononcée par le bienheureux Jean-Paul II lors de sa visite du Liban. Le Liban est plus qu'un pays, il est un message de paix, un message de dialogue, un message de respect et d'ouverture. Je souhaiterais également confier ma mission aux prêtres et aux laïcs de Tripoli, éprouvés par l'insécurité et leur dire avec vous et parmi vous, je serai l'évêque, serviteur du Christ et de l'homme. Je prendrai comme devise épiscopale témoignage et mission pour le Christ, la charité.
Tripoli est un des fiefs des sunnites au nord du Liban.
Oui.
Et c'est la ville où il y a eu le plus de tensions et d'affrontements. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet d'aller là-bas?
Il y a des chrétiens, des maronites, des orthodoxes. Il y a beaucoup de sunnites et des alaouites. Il y a une diversité religieuse et je veux être serviteur de tous les gens.
Est-ce que vous n'êtes pas inquiet d'aller là-bas avec les tensions et les affrontements qui s'y passent?
Il y a beaucoup de problèmes. On veut être avec tous les gens, de vivre avec eux, tous leurs problèmes politiques et économiques, de vivre là-bas et de confronter avec tous les peuples, et surtout les citoyens de Tripoli et du Nord-Liban.
Il y a plusieurs députés qui veulent que les chrétiens jouent un plus grand rôle pour apaiser les tensions.
On travaille beaucoup sur ce plan.
Dans quelle mesure peuvent-ils le faire?
Par le dialogue et l'ouverture, il y a des personnalités modérées au Liban. La peur n'existe pas chez nous. On va vivre ensemble, on va travailler ensemble pour le bien du pays.
À l'occasion de l'année de la foi, le pape François accorde l'indulgence plénière aux fidèles qui participeront avec dévotion au rite sacré aux exercices pieux qui se dérouleront à Rio de Janeiro pour les 28e journée mondiale de la jeunesse. C'est ce qu'annonce ce mardi un décret du Saint-Siège, venant plus précisément de la sacrée pénitencerie apostolique, un des trois tribunaux de l'Église catholique, qui a donc la responsabilité de la concession des indulgences. L'indulgence plénière peut s'obtenir aux conditions habituelles, à savoir la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière à l'intention du souverain pontife. Et puis tous ceux qui, où qu'ils se trouvent durant cette rencontre, prieront afin que la Vierge Marie et les autres saints patrons stimulent les jeunes à renforcer leur foi, à conduire une vie sainte. Ils pourront eux aussi bénéficier, mais cette fois d'une indulgence partielle, ajoute le décret. Les journées mondiales de la jeunesse catholique de Rio de Janeiro se dérouleront du 22 au 29 juillet prochain. Dans un peu plus de deux semaines, ils seront donc des milliers de jeunes catholiques à avoir convergé vers Rio, mais déjà, les symboles des journées mondiales de la jeunesse sont arrivés dans la ville brésilienne. Samedi soir, la croix et l'icône de la Vierge Marie ont été consignées au diocèse de Itaguaí. Ce mardi, le cardinal Rilco, le président du Conseil pontifical pour les laïcs, offre une réflexion sur la prochaine rencontre du pape François et des jeunes, Antonino Gallofaro.
26 ans après celle de Buenos Aires en Argentine, les journées mondiales de la jeunesse retournent en Amérique latine et de surcroît avec un pape, le premier venant de ce continent. En 1987, Jean-Paul II, celui qui eut l'intention de ces rencontres, sans aucun doute un de ses grands choix prophétiques, estime le cardinal Rilco, Jean-Paul II disait alors aux jeunes « Vous êtes l'espoir du pape, vous êtes l'espérance de l'Église ». Des décennies plus tard, l'aventure spirituelle a impliqué des milliers de jeunes de tous les continents, souligne le cardinal en charge des laïcs au Vatican. Ils ont découvert le Christ, chemin, vérité et vie. Ils ont découvert l'Église comme mère et enseignante et comme groupe d'amitié. Combien de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont advenues, s'exclame le président de Dicaster. Sans aucun doute, grâce au JMJ, l'Église a retrouvé au seuil du troisième millénaire un visage de jeunesse, le visage de l'enthousiasme et du courage renouvelé. Quant à ceux qui s'étonnent du succès des JMJ, le cardinal Rilco parle d'un don. Les JMJ offrent l'image d'une jeunesse loin des clichés diffusés par les médias, des jeunes assoiffés de valeurs et en recherche d'un sens plus profond de la vie. Ils ont mis derrière eux les idéologies et les faux maîtres qui proposent des mirages d'un bonheur au rabais. Ils cherchent Dieu dans l'Église. Sans nul doute, le pape François saura les encourager, poursuit le président du Conseil pontifical pour les laïcs. Nous sommes sûrs que la parole et le témoignage personnel du pape François seront un message fort qui pousseront les jeunes à devenir disciples et missionnaires.
Le cardinal Rilco, qui compte également sur les jeunes brésiliens pour transmettre à leurs camarades la beauté de leur tradition religieuse et de leur foi, surtout à ceux qui viennent d'Occident, une zone fortement sécularisée où les jeunes catholiques ont besoin d'un témoignage plein d'enthousiasme. Entre mer et montagne, c'est un paysage semblable à celui du sud ou du sud-est du Brésil. Notre émission se poursuit maintenant en Haïti, où deux congrégations brésiliennes des franciscaines missionnaires de Notre-Dame témoignent auprès de personnes vulnérables qui vivent sur l'île. Les religieuses gèrent deux dispensaires, s'occupent des femmes et de leurs enfants souffrant de malnutrition. À Sainte-Hélène, la terre ne manque pourtant pas, comme le dit le proverbe, ici tout se passe dans la plantation, mangue, noix de cajou, bananes, légumes, céréales. Le sol est riche, plus de 50% de la population vit d'ailleurs dans les zones rurales, mais Haïti importe jusqu'à 80% des aliments qui sont consommés sur l'île. Déforestation, culture mise en danger, intempéries violentes, manque d'investissement, tout ça provoque des pénuries alimentaires. Notre collègue brésilienne Bianca Fracalvieri a rencontré pour nous Sœur Marie Agnès Aubry. Celle-ci nous parle des structures dans lesquelles elle travaille.
Il y a le dispensaire et il y a un centre donc de récupération nutritionnelle. Là, on accueille les enfants de 0 à 6 ans qui sont en malnutrition grave, c'est-à-dire très très maigres, ou alors ils ont des œdèmes partout parce qu'ils sont malnutris. Moi, quand je suis arrivée, on s'occupait surtout des enfants au centre de nutrition. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi s'occuper de la maman. À partir du moment où on a commencé à soigner la maman, on avait de meilleurs résultats. Au niveau de la maman, il y a l'éducation, mais il y a aussi la santé de la maman. Il faut savoir pourquoi l'enfant est malnutri. Quelles sont les causes de la malnutrition de l'enfant ? Et souvent, c'est le problème de santé de la maman, ou problème économique, ou problème social. Il y a des mamans qui sont dans des grandes détresses. Ici, les femmes sont pratiquement seules pour élever leurs enfants. Le monsieur est là pour faire l'enfant et après, il est parti. Ces derniers mois, il n'y avait pas beaucoup d'enfants à Sainte-Hélène. Ces jours-ci, il y en a beaucoup qui arrivent de nouveau. Des fois, ils arrivent trop tard et ils meurent. Et des fois, les mamans pensent que c'est un mauvais esprit qui envahit l'enfant. Elles ne voient pas toujours la malnutrition. Il y a toutes ces croyances aussi qui peuvent jouer dans la malnutrition.
Comment expliquer une telle situation ?
Pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison politique, il ne faut pas le nier. Haïti a un problème au niveau de ses dirigeants qui veulent toujours mettre quand même l'argent dans leur poche plutôt que de donner au pays. Il y a cette raison politique, c'est vrai, qui est d'une dépendance par rapport aux États-Unis maintenant. Il y a un problème politique, moi, on ne peut pas le nier. Il y a un autre problème, c'est au niveau de toutes les croyances qu'il y a ici en Haïti qui empêchent les gens d'évoluer. Si je fais ça, les ancêtres vont se manifester, il y aura des représailles presque par les ancêtres.
Comment peut-on aller à contre-courant de cette mentalité ? Comment combattre ces croyances ?
L'éducation est très importante. Moi, je vois ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de visites à domicile. Dans toute cette zone, j'ai visité. Et ça m'a beaucoup frappé quand on éduque, quand on explique, il faut prendre le temps presque avec chaque femme d'expliquer, il y a quelque chose qui bouge. Il y a des femmes qui m'ont dit après, « Ma sœur, tu m'as appris beaucoup de choses. Maintenant, je comprends mieux. » Il n'y a plus cette fatalité. Il faut casser la fatalité. Il faut casser la résignation. Ils sont résignés. Ils ne croient plus à l'avenir. Et l'autre chose aussi qui tue ici, c'est l'assistanat. Donne-moi. Non, tu dois participer. Éduquer à participer. L'assistanat tue.
Comment concevoir l'évangélisation dans ce contexte ?
C'est difficile d'évangéliser quand ils ont faim. Mais je crois que l'évangélisation passe autrement. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'évangéliques. Beaucoup d'églises évangéliques qui, avec le diable, avec les... Ouh là 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 ! Tout ce qu'ils peuvent dire. Mais je crois qu'on évangélise par le fait d'être proche d'eux, de les écouter, de les faire réfléchir, mais de les aimer aussi, les aimer et la compassion avec eux.
Il y a 2 ans, jour pour jour, un nouvel État reconnu par le Saint-Siège voyait le jour. Le Soudan du Sud célèbre ce mardi le 2e anniversaire de sa création. Mais pour quel bilan? Sur le plan politique, les querelles avec Khartoum sur la question de la frontière, celle des attaques rebelles ou sur la très importante question du pétrole semblent s'être apaisées. En interne, cependant, le plus jeune État du monde doit encore faire face à la très grande pauvreté de sa population, malgré la richesse de son sol, sans compter l'afflux non plus massif mais régulier de Sud-Soudanais venant du Nord. Bilan de 2 années d'indépendance avec Maxime Babser.
L'indépendance du Soudan du Sud n'a pas apporté de meilleures conditions de vie pour ses habitants. L'économie du pays dépend à 98% des revenus pétroliers, mais très peu d'habitants peuvent en profiter. Ainsi, plus de la moitié de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. Mais pour Nipin Gangadharan, qui gère l'action de l'association Action contre la faim, le Soudan du Sud s'appauvrit pour d'autres raisons.
Dans le nord du pays, on a observé une grande augmentation du nombre de revenants, c'est-à-dire des personnes qui avaient fui le Sud-Soudan pendant la guerre et sont revenues après l'indépendance. Par exemple, la population du Bahr el-Ghazal du nord est composée à 50% de revenants. Vous avez donc dans ces régions un grand nombre de personnes qui sont revenues vivre et n'ont pas le nécessaire vital. Ils n'ont pas pu retrouver ne serait-ce que leur maison.
Cet afflux de population s'explique également par l'arrivée de réfugiés du Soudan vers les camps frontaliers pour fuir la guerre civile qui sévit dans leur pays. C'est le cas au camp de Yida, où l'organisation Médecins sans frontières voit chaque jour près de 300 nouveaux arrivants débarquer. Pour Corinne Thor, coordinatrice de l'association à Yida, le camp n'aurait jamais dû se construire sur le site actuel.
Ce camp s'est installé naturellement en été 2011, lorsque les premiers réfugiés sont arrivés. Les gens sont installés et le problème, c'est que ce n'est pas du tout la configuration d'un camp de réfugiés classique. C'était une forêt hein, à l'époque. Ils ont coupé les arbres pour pouvoir construire leur cahute, d'où la nécessité d'ouvrir un deuxième camp qui soit réellement, alors non pas fermé, mais en tout cas avec des emplacements qui sont prédéfinis pour que les personnes puissent s'installer. Ce qui fait que l'on sait exactement où se situent les réfugiés et on peut à ce moment-là prévoir un certain nombre de puits à des endroits très précis. Sur Yida, c'est absolument impossible.
La volontaire française a l'habitude de travailler sur des camps de réfugiés en Afrique. Les relations avec les autres associations ou ONG se révèlent souvent difficiles. Mais cette fois-ci, pour la jeune femme, il existe une vraie coopération.
Pour la première fois, les relations étaient extrêmement bonnes avec tous les partenaires. On a vraiment travaillé en étroite collaboration, en tenant compte des problématiques de chacun. On a vraiment travaillé main dans la main pour essayer d'avancer, pour essayer de prévoir effectivement des puits d'eau, d'anticiper les épidémies par des distributions de jerrycans et de savon et de moustiquaires.
Reste que pour tous les bénévoles sur place, le risque de subir des agressions physiques est permanent. Nipin Gangadharan regrette d'ailleurs leur augmentation.
L'année dernière, 60% des agressions répertoriées, tant physiques que verbales, visaient des travailleurs humanitaires. Nous avons aussi dû faire face à des coupures de pétrole ou à l'interdiction d'importer du matériel de secours.
Et les prévisions sur l'afflux de réfugiés sont inquiétantes. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le Soudan du Sud devrait accueillir entre 100 à 150 000 personnes d'ici à la fin de l'année.
Ouverture ce mardi de la 16e Assemblée Générale du SECAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. 6 cardinaux, des archevêques, des évêques ou encore les représentants de nombreuses conférences épiscopales nationales et régionales sont réunis à Kinshasa. L'Assemblée Générale du SECAM a été ouverte par une messe dans la capitale de la RDC. Dans son homélie, le cardinal Théodore Adrien Sarr, l'archevêque de Dakar au Sénégal, affirmait que les pasteurs de l'Église doivent poursuivre la mission de Jésus de libérer les peuple d'Afrique de la misère, de l'ignorance spirituelle notamment. Quant à l'archevêque de Dar es Salaam en Tanzanie, Mgr Polycarpe Pongo a estimé dans son discours d'ouverture que la mission du SECAM n'avait pas changé en fait depuis sa création en 1969 à Kampala. Il faut apporter l'évangile à l'Afrique. Le message de justice, de paix et de réconciliation est une urgence pour l'Afrique comme pour Madagascar. Un grand merci à un des correspondants de Radio Vatican à Kinshasa, Jean-Baptiste Mélinger, qui nous a fait parvenir toutes ces informations. Et puis finissons enfin par 2 tweets. Le premier est du pape François. Un chrétien, écrit-il, est toujours rempli d'espérance. Il ne peut jamais se décourager. Le second tweet a été rédigé par Mgr Tomasi, observateur du Saint-Siège auprès des organisations des Nations Unies basées à Genève. La science, la technologie et l'innovation requièrent des formes de solidarité vraiment favorables aux pays les plus pauvres. Un message publié sur le compte Twitter de la secrétaire d'État. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.